À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent, éminent technicien de Couleur FM 97.1. Bonjour Guy Bonetto. Donc si tu es là, Guy, c'est qu'on va parler de jazz.
Ben oui, tout à fait.
Alors d'abord, avant de parler de jazz, quelques nouvelles de l'INIS, des voyages et des dates. On va commencer par les dates, des dates donc qui sont à venir, bien sûr. Le 2 septembre, nous participerons au Forum des associations de Bourgoin. Donc c'est un endroit de rencontre et c'est surtout là que ceux qui veulent apprendre l'italien se rendent pour nous rencontrer parce que les cours de l'INIS sont assez fréquentés. Il y a en gros une centaine de personnes qui les suivent. Donc le Forum des Italiens, c'est le rendez-vous. Ensuite, le 22 septembre, ce sera notre Assemblée Générale, mais elle est ouverte à tout le monde. Et pour ma part, ça a été un excellent premier contact. C'est par cette porte que je suis venu à l'INIS, voir une AG de plus de 100 personnes avec des gens qui participent vraiment, m'a convaincu de la vigueur de l'association. Alors après les dates, on va parler des voyages récents, des voyages qui ont eu lieu. D'abord notre séjour d'immersion. 6 auditeurs des cours d'italien se sont rendus donc dans le Piémont pendant une semaine. Et c'était une semaine assez dense parce que au programme il y avait des visites, des rencontres et surtout le but était de parler italien. Du matin au soir, du matin on va dire après la douche, pendant la douche je sais pas, mais après la douche jusque à la veille de l'endormissement quoi. Le programme donc, je vous en donne quelques les grandes lignes. Il y avait d'abord les éditions Tabor de Sels dans le Val de Souze qui a la particularité d'éditer des livres sans copyright. Ensuite, une rencontre avec les Notav, donc c'est un groupe qui est contre la ligne de TGV Lyon-Turin, avec qui on avait fait une émission de radio il y a quelques années. Je voudrais dire un mot concernant les Notav, c'est pas seulement quelques agitateurs comme on peut le penser, mais des gens qui ont une réflexion assez profonde sur nos mœurs commerciales et sur la limpidité de la vie en Italie. Nos mœurs commerciales, ils disent à quoi ça sert de gagner une heure sur un Lyon-Turin pour faire passer des gens ou des marchandises, pourquoi importer des tomates du sud de Maroc pour les manger à Milan. Ça, c'est le fond, le cœur de leur action. Ensuite, la société Olivei d'Ivrea, société qui était porteuse d'un capitalisme social mêlant la technique, le design dans ses produits. Donc je rappelle que Olivetti faisait des machines à écrire et des machines à calculer. Et c'est une société qui a eu un impact énorme sur la ville d'Ivrea. Ensuite, une singularité, la visite d'un village par un habitant. Donc ce voyage, c'est moi qui l'ai organisé. J'ai été à la mairie et j'ai demandé si un habitant pouvait nous faire visiter le village. C'est quelqu'un qui n'avait jamais fait ça. Et qui était très satisfait. Donc le but, bien sûr, là, était de parler italien, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir dans le village. Ensuite, il y avait les rizières de Livorno Faranis, des châteaux, et puis l'évocation de la vie de Don Bosco, qui était un curé au début du XXe siècle, je crois, ou fin du XIXe, qui avait agi en faveur des enfants pauvres. Voilà pour les nouvelles de l'INIS. Maintenant, une petite nouvelle de l'Italie. Le 11 juin, il y a eu les élections municipales. Et à cette occasion, je voudrais m'arrêter sur une personne et une commune. La personne, c'est Giuseppe Nicolini. Ce n'est pas n'importe qui. L'UNESCO lui a décerné le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix En 2017, elle a reçu le prix Simone de Beauvoir pour son action pour les femmes. C'est une dame, Giuseppina Nicolini, qui était invitée de tous les médias. Matteo Renzi l'avait emmenée avec lui lorsqu'il avait rencontré Barack Obama à la Maison Blanche. Et elle a été l'objet de la première visite du pape en 2013. Et Giuseppina Nicolini était la maire de Lampedusa et elle a perdu sa mairie. Pire, elle est arrivée troisième sur quatre candidats et le nouveau maire se trouve être l'ancien qui a retrouvé son fauteuil. C'était un notable médecin. Donc la conclusion que l'on peut en tirer, c'est qu'au-delà du résultat, il faut voir le décalage entre une action humanitaire de Madame Nicolini sans précédent, qui est reconnu au niveau mondial, et puis ses conséquences sur la vie locale dans la commune de Lampedusa. Voilà pour cette introduction à cette émission. Maintenant, on va passer à notre sujet du jour, qui est le jazz, et en particulier le jazz italien. Donc, Guy, la première chanson, une chanson de jazz, j'imagine.
Oui, alors donc, c'est vrai qu'avant de débuter par une chanson, c'est vrai que j'aimerais faire déjà un petit rappel, parce que là, aujourd'hui, c'est la deuxième émission sur le jazz italien.
On peut en faire d'autres.
Ah ben, tout à fait, oui, ben, j'espère. Donc, de toute façon, il y a vraiment matière à faire pas mal d'émissions, parce que je parle en fait et des jazzmen italiens 100%, mais aussi des jazzmen d'origine italienne. Donc, à la première émission, au mois d'avril, j'ai donc fait un petit peu d'histoire en expliquant donc l'importance de l'influence des musiciens de jazz américains dans les années 1950 qui viennent en Europe et sur le sol italien, bien sûr. Donc, j'ai insisté aussi sur Chet Baker, qui a beaucoup influencé les musiciens de jazz italien. Et puis j'ai parlé de Riccardo Delfra, contrebassiste, Aldo Romano, batteur, et Michel Petrucciani, pianiste. Donc j'avais parlé à la première émission que j'avais une très belle interview de Chet Baker en italien. Alors on est quand même dans une émission qui s'appelle « À l'écoute de l'Italie ».
À l'écoute de l'Italie.
Donc à l'écoute de l'Italie, ce serait dommage de s'en priver.
Donc à l'écoute de l'Italie, c'est sur Couleur FM 97.1.
Et en fait, cette interview a été réalisée en Italie en 1980, où on peut entendre Chet s'exprimer en italien. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Vous verrez qu'il a un italien qui est quand même qui est quand même pas mal, étant donné qu'il a vécu quand même un peu en Italie, qu'il y a été emprisonné à cause de la drogue, que c'est vrai que Chet, la drogue a été le démon de toute sa vie. Et je vais vous faire une petite traduction rapide de cette interview. Après, je vous la laisse écouter. Je ne vous la passe pas entière. Elle dure à peu près une dizaine de minutes. On va l'écouter jusqu'à à peu près 7 minutes. Mais c'est une interview que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube. Donc, c'est intéressant si les auditeurs veulent l'écouter en entier. Donc, tout d'abord, le journaliste le questionne sur sa dépendance à la drogue. Chet explique qu'il a commencé à prendre de l'héroïne à 27 ans, en 1957. Et puis, il est allé toujours plus bas dans l'addiction de cette drogue. Un jour, il a été arrêté et il pouvait encourir jusqu'à 5 ans de prison. Mais un juge américain, vous verrez, il l'appelle Brody, du nom de Brody, qui avait joué, lui aussi, de la trompette quand il était au collège, a voulu lui donner sa chance. Et donc, il l'a remis en liberté en échange que Chet prenne des médicaments de sevrage. Donc, il a pris de la méthadone pendant 7 ans. Et en diminuant les doses petit à petit. Puis ensuite, il explique que dans son cas, élu quand même meilleur trompettiste aux USA dans les années 1954-55, il se devait toujours d'être dans l'excellence. Et en fait, c'était un stress énorme pour lui de jouer. Et donc, c'est avec la drogue qu'il arrivait à jouer si magnifiquement. C'était quelqu'un qui avait un potentiel énorme. Mais en fait, la drogue lui permettait de ne pas être stressé face au public. Et là, il était en possession de tous ses moyens. Donc, voilà. Donc, il explique tout ça. Après, il explique qu'il est agressé à San Francisco par des dealers et il se retrouve avec une fracture de la mâchoire, beaucoup de dents de la mâchoire supérieure cassées. Donc, pour lui, à cette époque, il lui était impossible de jouer suite à cette agression. Et vous verrez, c'est assez touchant. Il explique dans cette interview qu'en fait, il travaille dans une station-service de 7h du matin à 11h le soir et 7 jours sur 7. Et à cette époque, pendant ce temps, la nuit, il retravaille sa trompette, en fait. Et il met à peu près 3 ans à tout récupérer,
à retrouver
le bon positionnement des lèvres, le souffle. Et c'est vrai que vers la fin de sa vie, qui a été quand même assez tumultueuse, parce qu'il a été souvent, il abusait vraiment de la drogue. Donc il y a des très bons concerts, il y a des concerts qui sont beaucoup moins bons. Mais par contre, les bons concerts, notamment à la dernière émission, j'avais passé un extrait d'un de ses derniers disques enregistrés à Tokyo. C'est vrai que c'est fabuleux. Il y a une puissance, il y a une mélodie qui est merveilleuse, quoi.
On va pas aller jusqu'à faire l'apologie de la drogue quand même.
Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est quand même un musicien exceptionnel. Voilà. Donc nous allons écouter cet extrait de cette interview réalisée en Italie et donc voilà en 1980.
Che cos'è che ha determinato la caduta di Chaplin?
Ma a 27 anni, in 1957, ha cominciato a prendere la droga.
Che droga?
L'eroina. E poi è andato giù. È finito in galera tante volte, finalmente ha cominciato a scrivere le ricette medicali per la droga, poi è stato arrestato per scrivendo le ricette, quando solo dopo avere, è difficile, mi è arrestato una volta per scrivere le ricette, poi mi ha lasciato, poi è stato arrestato un'altra volta e questa volta mi può mettere in galera per 5 anni se voglio, ma ha preso un judge, come si chiama?
Giudice,
che lui, il suo nome è Brody di Torrance, California. Lui è negro e ha suonato la tromba quando andava in collegio. Lui non vuole fare il male a me. Mi ha messo chiuso per 5 mesi, poi quando ho sentito bene mi ha messo per la strada ancora. Allora ho preso metadone per quasi 7 anni, di dose sempre diminuendo, sempre meno, fino a che finalmente è smesso totalmente.
Negli anni 50, Chet Baker era la tromba bianca più grande del jazz. Poi un brutto giorno inciampò nella droga, finì in carcere. Dopo la caduta non si sentì più parlare di lui per anni. Ora Chet Baker è a Roma. Il suo ritorno alla musica è la prima vittoria di un uomo che sembrava aver perduto ogni speranza.
Qual è stato il tuo rapporto con l'eroina? È collegato al fatto che tu suonavi?
Sì, perché la vita di uno che suonare, come suonare io, o come provare da suonare, è molto difficile. Sono molto pressione, pressione di della musica e quello che sta, quello che prova di suonare, e pressione della gente che viene ad ascoltare, perché quando uno essere chiamato la prima tromba, jazz trombettista nel mondo, come ho fatto io in 54-55, non, la gente che viene sono 30-40% musicisti, allora è molto pressione, non so se se io posso spiegare questo. Ha perduto tutti i miei denti sopra, ha lavorato in una stazione di benzina, 7 della mattina alle 11 della sera, 6 giorni per settimana, ha fatto così per molto tempo, e finalmente deciso che così non mi dà molto soddisfazioni da vivere, e pensato che sono qui in questo mondo per fare una cosa e una cosa solo, da fare la musica, e deve cercare un modo, un sistema di suonare e cominciare dal capo.
Ma qual era la questione? Cioè, nel momento in cui tu sei uscito dalla galera, sì, ti sei ritrovato senza denti, era impossibile ricominciare a suonare?
Sì, era impossibile. Quando ho ricevuto la prima dentura, ho provato a suonare e non riesce a fare neanche una nota.
Ma è una questione di tecnica di labbro oppure di fiato?
No, solo il cambiamento di posizione di labbro, di denti. Ho provato per 3 anni di trovare un sistema personale e finalmente ho trovato. Ho fatto le note lunghe, ha fatto tutti gli esercizi che fai tutti trombettisti per suonare, tutte le scale, gli intervalli, le note lunghe. Meglio di tutti fare le note lunghe che cominciare piano piano e poi più volume e poi abbassare ancora. In tutte le scale fare
ci puoi,
così.
Ci puoi far sentire?
Per.
Voilà, donc vous avez vu cette belle interview.
C'est émouvant, oui.
Hein, c'est vrai, c'est très touchant. Surtout tout en sachant que, je dirais, pour Chet Baker, c'est vrai que la drogue a été le démon de toute sa vie. Donc voilà, c'est même assez émouvant. Je suis allé à Amsterdam, là où il est décédé finalement, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en fait, on l'a retrouvé mort. Il est tombé de la fenêtre de son hôtel. Donc est-ce qu'il avait abusé de trop de drogue? Est-ce qu'il y a eu une rixe avec des dealers
à Amsterdam?
On ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais bon, c'est très émouvant, c'est vrai. Voilà. Donc maintenant, on va continuer avec Stéphane Grappelli. Stéphane Grappelli, lui, il est français, mais d'origine italienne. Son père est italien et sa mère française. Il perd sa mère très jeune, à l'âge de 4 ans. Et c'est vers l'âge de 12 ans qu'il commence à jouer du violon dans les rues et les cours d'immeubles pour rapporter un peu d'argent à la maison. Et il débute sa carrière professionnelle en 1923 comme violoniste et pianiste dans les cinémas pour accompagner les films muets. Souvent, on imagine Stéphane Grappelli uniquement donc violoniste, et en fait, c'est un très bon pianiste. D'ailleurs,
pour moi, c'est un violoniste.
Oui. Eh ben oui, mais en plus, c'est vraiment un pianiste excellent, puisque en fait, en 1930, quand il a débuté, il est aux côtés de Django Reinhardt et Alix Campbell. Souvent, dans les orchestres, il était au piano.
D'accord.
Donc, dans les années 1930, avec les musiciens du moment, il fréquente de nombreux orchestres. Et c'est là que plus il est plus au piano qu'au violon. C'est étonnant. Et d'ailleurs, dans un film...
Il faisait les deux, ou le violon est venu sur la fin de sa vie? Enfin, il est connu pour du violon.
Alors, je pense que...
Connu par les noms, oui, par les profanes, comme moi.
Le violon est vraiment majoritaire dans sa vie. Mais par contre, quand il a débuté dans le métier, il était plutôt pianiste.
D'accord.
Et c'est vrai que j'ai vu un film sur Michel Petrucciani par rapport au morceau que je vais vous faire écouter donc après. Et dans ce film, on voit Stéphane Grappelli qui explique à Michel Petrucciani, il prend le piano et il lui explique quelle tonalité il veut, exactement ce qu'il a envie pour le morceau. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Et on voit Michel Petrucciani qui l'écoute avec des grands yeux admiratifs. Donc voilà, donc c'est d'abord un très bon pianiste. Le film dont je parle, c'est un film réalisé sur la vie de Michel Petrucciani par Franck Cassanti. C'est un très très beau film. Donc quand la guerre éclate en 1939, Stéphane Grappelli se trouve en tournée en Angleterre. Et avec le quintet du Hot Club de France. Et Django rentre aussitôt en France, mais Stéphane, qui était malade, il reste bloqué à Londres. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que Stéphane restera donc en Angleterre pendant toute la durée de la guerre. Et en jouant notamment avec le pianiste George Shearing. Donc après son partenariat avec Django Reinhardt, qui donnera naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz manouche, il enregistre plus d'une centaine de disques avec les grands musiciens de son temps, dont Oscar Peterson, Jean-Luc Ponty, Philippe Catherine, Michel Petrucciani, Yehudi Menuhin, etc. Donc, il a joué du violon sur le titre « Wish You Were Here » de Pink Floyd. Mais en fait, la prise n'a pas été utilisée pour le mixage final.
Ah.
Donc l'album est sorti en 1975. Il est aussi le compositeur et interprète des morceaux originaux constituant la bande son du film Les Valseuses de Bertrand Blier. Ça, on l'imaginait pas du tout là non plus.
Oui.
Et la musique de Milou en mai, un film de Louis Malle de 1989. Peut-être, je ne l'ai pas vu ce film. Et donc, il termine sa carrière au sein d'un magnifique trio comprenant Marc Fossette à la guitare et Jean-Philippe Viret à la contrebasse. Donc, Stéphane Grappelli meurt à Paris le 1er décembre 1997 et ses cendres reposent actuellement au Père Lachaise. Donc, nous allons l'écouter
Piano ou au violon ?
Alors, au violon, là.
D'accord.
Au piano, il y a Michel Petrucciani. Et donc, c'est un album qui s'appelle Flamingo. Qui est sorti en 1995, et donc il y a Georges Embrasse à la contrebasse et Roy Heinz à la batterie. Le titre du morceau s'appelle Misty.
Thank you. Thank you.
Eh bien, vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1. Donc, nous venons d'écouter donc Stéphane Grappelli au violon, accompagné de Michel Petrucciani au piano, Roy Hines à la batterie, Georges Emraz à la contrebasse. Et c'est un album qui s'intitule Flamingo, album enregistré en 95. Je vous le conseille, c'est un très très bel album. Donc, maintenant, on va parler d'un trompettiste italien qui s'appelle Enrico Rava. Et j'ai eu l'occasion de l'écouter en live dans un beau lieu à Lyon qui s'appelle l'Amphi Jazz à l'Opéra de Lyon.
C'est un festival, non ?
Non, pas du tout.
C'est un concert ?
Pas du tout, c'est un concert. C'est en fait à l'Amphi Jazz à Lyon. C'est une petite salle qui est dans l'Opéra de Lyon, mais qui est dessous, en sous-sol. C'est vraiment une très petite salle de 200-300 personnes avec une régie, vraiment une salle vraiment très très musicale. Et il y a une très belle programmation de jazz à l'année avec à peu près un concert par mois.
D'accord.
Donc moi en général je ne rate aucun concert. Je suis un fidèle auditeur et par chance il y a beaucoup de jazzmen italiens qui viennent. Voilà.
C'est vrai que c'est pas très loin.
Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai.
Et souvent, donc, à Jazz à Vienne, tu y es tous les soirs, alors ?
Alors, pas tous les soirs, mais ce soir, je vais y aller, oui, effectivement.
Et alors, tu fais d'autres concerts, d'autres, pas concerts, mais festivals, ouais, en France ? Il y en a d'autres, non ?
Alors, en France...
Moi, le profane, ouais, que je suis connaît Juin les Pins.
C'est oui. Bah, alors, c'est vrai que dans le midi de la France, il y a des très bons et très beaux festivals avec des très belles programmations. Il y a notamment Jazz in Marciac.
Dans le Cantal.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a Nice Jazz Festival à Nice. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu loin, là, venant de l'Isère. Donc, moi, je vais principalement à Jazz à Vienne et à l'Amphi, donc à l'Amphi Jazz à Lyon.
D'accord.
Et autrement, c'est vrai qu'en Italie, moi, personnellement, je n'y suis jamais allé, mais il y a le grand festival de l'Umbria Jazz Festival à Perugia, où a joué d'ailleurs plusieurs fois Michel Petrucciani. Autrement, en scène vraiment emblématique, eh ben, il y a le fameux Village Vanguard à New York, donc, où seuls quelques rares musiciens occidentaux ont pu jouer, dont Michel Petrucciani, bien sûr. Il a même enregistré un disque. Et puis un musicien, je ne sais pas si on aura le temps de le voir aujourd'hui, qui s'appelle Enrico Pieranunzi, qui est un pianiste et qui a lui aussi joué au Village Vanguard. Donc, le Village Vanguard, c'est vraiment mythique parce qu'en fait...
une salle de concert.
En fait, c'est un club. En fait, c'est un club de jazz. Donc, en 1957, Sonny Rollins a enregistré un disque. Bill Evans a enregistré en 1961. Après il y a eu Coltrane en 61. Donc tous les grands du jazz sont passés au Village Vanguard.
Quelle différence entre une salle de concert et un club ?
C'est-à-dire qu'un club, c'est vrai que maintenant les choses ont changé, mais à l'époque c'était des endroits où on pouvait, il y avait un bar qui était ouvert pendant tout le concert. D'ailleurs, ce qui est vraiment étonnant, c'est que moi j'ai l'intégralité des enregistrements de Bill Evans. Donc, qui sont enregistrés au Village Vanguard. Et alors, en fond, on entend les bruits de verre, les bruits des verres qui se remplissent, on entend les gens qui parlent. Et donc, c'est pour ça que les musiciens américains ont été surpris et ont beaucoup apprécié de venir après en Europe. Parce qu'en fait, ils étaient vraiment...
Dans le silence, quoi.
Ils étaient écoutés, quoi. Et ils ont beaucoup apprécié, en fait, l'auditoire européen. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on les écoutait vraiment. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était des clubs. Ça veut dire que les gens parlaient, les gens mangeaient, les gens buvaient.
D'accord, c'est un cabaret, quoi.
C'était une sorte de cabaret jazz. Donc, mais je pense qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai essayé d'aller au Village Vanguard la dernière fois que je suis allé à New York, mais c'est tout le temps blindé, donc c'est impossible d'y rentrer tellement c'est prisé. Mais en fait, je pense que ça a dû changer. Voilà.
Bien.
Donc, on va parler maintenant de Enrico Rava, donc que j'ai entendu à l'Amphi Jazz il y a quelques années. Donc, Enrico Rava, il est né à Trieste, en Italie. Lui, il est 100% italien. Il est né le 20 août 1939. à 18 ans, enfin quand il avait 18 ans, c'est un concert de Miles Davis à Turin qu'il a eu vraiment la vision qu'en fait il se lancerait dans cette carrière. À ce moment-là, il a arrêté le trombone pour se consacrer uniquement à la trompette. Et dans les années 60, son horizon s'élargit, il rencontre des musiciens étrangers et ce qui l'emmène en Argentine, puis à New York, où il s'installe pour 9 ans dans les années 60-70. Donc Enrico Rava, il a collaboré avec des grands musiciens de notre époque comme Gatto Barbieri, Lee Konitz, Pat Metheny, Michel Petrucciani, John Abercrombie, pour ceux qui les connaissent, Paul Motion, Richard Galliano, Miroslav Vitus, etc. Il a été élu plusieurs fois meilleur musicien dans le référendum annuel conduit par Musica Jazz, qui est une revue italienne. Et en 1999, il fonde un quintet avec le trompettiste Paolo Fresu, qui est aussi très très connu, dont on parlera sûrement à une autre occasion.
Prochaine émission.
Prochaine émission, c'est ça. Avec qui il enregistre Shade of Chet. Donc il enregistre également en duo avec le pianiste Stefano Bollani. Donc on va l'écouter dans un album enregistré en 99. C'est justement cet album qui s'appelle Shade of Chet. Il est accompagné par Stefano Bollani au piano, Paolo Fresu à la trompette, Enzo Pietrapaoli à la contrebasse et Roberto Gatto à la batterie. Vous êtes bien toujours sur Couleur FM 97.1. Nous venons d'écouter donc Enrico Rava à la trompette dans un album qui s'appelle Shade of Chet, enregistré en 99, avec il est accompagné de Stefano Bollani au piano, Paolo Fresu à la trompette, Enzo Pietrapaoli à la contrebasse et Roberto Gatto à la batterie.
Je connais assez peu le jazz, enfin c'est peu dire. J'ai l'impression que tu nous parles que des vieux là.
Ben c'est pour le moment, oui, j'ai pas mal de musiciens qui sont entre guillemets assez âgés, mais c'est vrai qu'il y a quand même une relève avec beaucoup de jeunes musiciens très très talentueux, mais on en parlera bien sûr dans les prochaines émissions.
D'accord, c'est programmé.
Ouais, c'est programmé. Ouais, tout à fait. Voilà.
Ok.
Ceci dit, il y a une base très très solide de vieux musiciens. Et moi, je remarque personnellement, allant beaucoup aux concerts de jazz, que même le public est quand même globalement assez âgé.
Et c'est lié quoi, au prix des places, non ?
Je pense pas, non. Je pense que c'est un peu peut-être générationnel. C'est peut-être lié à une génération. Parce que les musiques sont en constante évolution et les jeunes écoutent peut-être d'autres types de musique à l'heure actuelle et nous, on y est moins sensibles. Moi, je pense que c'est lié à la génération aussi.
D'accord.
Malgré tout, dans les concerts, on voit quelques jeunes qui sont passionnés. Il y a vraiment de tout, mais c'est une minorité.
Donc, je n'ai pas encore atteint l'âge du jazz, alors.
Voilà. Donc, après ce très beau thème, on va parler de Furio Di Castri, qui est, lui, un musicien 100% italien. Donc, Furio Di Castri, il est né à Milan en 1955. Au départ, il est complètement autodidacte et il commence l'apprentissage de la basse électrique, à 11 ans. Et à 22 ans, il commence sa carrière professionnelle. Donc, de 78 à 86, il collabore principalement avec un groupe qui s'appelle Illingomania, donc un groupe italien qui est vraiment, si vous pouvez retrouver des enregistrements sur YouTube, qui est vraiment dans le style jazz rock. Donc le jazz rock dans les années 70. Et donc avec deux musiciens, avec Maurizio Gammarco au saxo et Roberto Gatto à la batterie. En 1981, il est membre du quartet d'Enrico Rava, donc qu'on vient d'écouter, et ils font des tournées en Europe pendant 7 ans. Dans la même période, il accompagne Steve Lassie, Dino Saluzzi et Dave Liebman, Ray Anderson, etc. Donc, de 1981 à 83, il a joué avec le trio de Michel Petrucciani. Dans la première émission de jazz, j'avais passé un morceau donc, de Michel Petrucciani au piano avec Furio Di Castri à la contrebasse. Il joue avec les membres aussi de grands jazzmen du moment. Et en 88, il joue régulièrement avec le quartet d'Aldo Romano. Aldo Romano, c'est un très bon batteur et j'en ai parlé à la première émission également. Et c'est un batteur aussi qui est passé il y a une petite dizaine d'années à l'Amphi-Jazz de Lyon. Donc, et alors après, en 90, il fait des concerts en duo avec Paolo Fresu qui combine musique acoustique et électronique. Alors, c'est vrai que le jazz, c'est vraiment une musique vivante. Et à l'heure actuelle, de plus en plus, on peut voir l'incidence et l'influence des de l'électronique dans le jazz. Et il y a beaucoup de musiciens maintenant qui sont équipés d'une ribambelle d'accessoires électroniques pour amener des effets sonores assez étonnants.
Dans les disques ou en concert ?
Non, en concert.
Ah, en concert.
Ouais, dans les disques, bien sûr. Mais moi, je vois qu'à tous les concerts où je vais, on voit que les musiciens ont vraiment un matériel incroyable, hein, assisté d'ordinateur, sur scène.
D'accord.
Et Furio Di Castri, il a enregistré plus de 50 albums. Il collabore aussi avec des improvisations pour le Conservatoire de Parme, donc plutôt de la musique contemporaine. Donc nous allons l'écouter dans une de ses compositions, enregistrée en 95 dans l'album Midscapes. Il est accompagné de Paolo Fresu à la trompette et de John Balk au piano et de Pierre Favre à la percussion. Thank you. Vous êtes donc toujours sur Couleur FM 97.1. Donc c'est la fin de cette émission sur le jazz. Donc je vous donne rendez-vous à une prochaine pour la troisième émission et je laisse la parole à Serge.
Alors à propos de prochaines émissions, on peut, puisque c'est la dernière de la saison, on peut évoquer les thèmes qu'on va aborder l'année prochaine. Il y aura une émission sur les victimes de l'amiante à Casale et Monferrato, émission qui, où on a déjà enregistré les interviews. Une émission sur la société Olivetti et sa vision du capitalisme social, je pense. Une émission, bien sûr, sur le jazz, peut-être le jazz plus centré sur l'Italie. Et puis une émission sur Fiat et Turin. Et puis peut-être deux autres émissions, une sur l'histoire du Barolo, ce formidable vin du Piémont. Et puis sur les nouveaux habitants dans les nouveaux habitants des montagnes piémontaises essentiellement. Eh bien, bonnes vacances à tout le monde. Et puis on se retrouve, vous nous retrouverez l'INIS tout au long des vacances aux horaires de programmation d'été. Et puis la prochaine émission sera donc en septembre. Au revoir à tous.
À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.